Tarn, reportages, rencontres, portraits d'habitants et d'habitantes, initiatives locales dans le Tarn, un magazine partagé à la confluence des ondes amies, celles de Radio Albitzis, Radio Air d'Otan, Air d'Otan Gaillac et Radio Octopus.
La Navarro, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci de m'accueillir quelques minutes à l'occasion de la conférence de presse pour le festival Un Week-end avec elle. On le rappelle, du 4 au 7 avril. Un festival qui en a la 17e édition, qui a eu un petit temps de pause. Quelle est un petit peu l'intention d'Arpège et Trémolo avec ce festival ?
En fait, c'est vrai, autour de la musique, qui est quand même notre cœur de métier, on voudrait surtout pas en rester que là et en faire un festival qui soit un peu militant, tel qu'on l'avait conçu les premières années de 1999 à 2005, en gros, où on avait vraiment beaucoup d'actions dans les quartiers, les centres sociaux, avec les femmes, avec les jeunes. On était hyper présents sur ce genre d'action. Et il y a eu un moment où, en fait, Pause Guitare prenait tellement d'ampleur qu'on n'était plus en capacité de mettre du contenu dans le week-end avec elle, et on a préféré du coup faire une pause. Et là, on revient vraiment avec cette idée forte et avec une asso qu'on aime beaucoup, qui est l'association franco-kurde Occitanie, où on a des choses à raconter qui soient bien autre chose que parfois des moments de musique.
Oui, d'ailleurs, on les a eus en interview. Et justement, bien, un festival qui s'étend sur le territoire, sur différentes communes, avec des liens avec différents partenaires, et puis alors pas que de la musique.
Voilà, mais c'est notre intention, c'est ce qu'on aime. On aime bien être dans des moments de partage. On aime bien, quelque part, se reconnaître aussi dans le sens de ce que l'on fait. Et on aime bien aussi ne pas se sentir seul dans des histoires qu'on a à construire, parce qu'on les construit jamais aussi bien que quand on est nombreux. Et on a quand même sur cette édition une dizaine de structures culturelles qui participent à l'événement. Et on n'est pas peu fiers d'avoir réussi en 3 jours et demi à fédérer autant de monde autour de cette histoire.
Il y a des acteurs, des partenaires que l'on retrouve d'année en année avec Un Week-end avec elle, et puis aussi des nouveaux.
Bien sûr, avec le Café Plume, mais aussi on sera cette année sur Castelnau de Lévis avec la maison musique. Et c'est un nouveau partenariat, un lieu qui se crée. Donc pour nous, c'est toujours un moment plein d'émotions que de voir que sur les territoires, il y a des lieux alternatifs qui se créent, comme au Café Flo ou le Café Plume aussi, qui est un super exemple que beaucoup viennent voir parce que c'est quand même assez méritant. Et puis l'association franco-kurde qu'on connaît depuis longtemps et dont on connaît l'histoire, et cette histoire qu'on n'a pas envie d'oublier et qu'on a vraiment envie de mettre en avant sur cette édition.
On peut dire un festival engagé, voilà, du côté des femmes, mais pas que, du côté de tous et de toutes. Et pour en revenir au côté musical, on peut dire qu'il y a toujours aussi artistes émergents et grands artistes internationaux, des artistes d'aujourd'hui, jeunesse, et puis des grands classiques.
Bien sûr, avec toujours un peu cette notion qui est vraiment très forte chez nous, c'est la découverte. Je rappelle quand même que même sur Pause Guitare, avec 85 concerts, il y a 16 artistes sur la grosse scène, mais après c'est 70 groupes et dont la plupart sont totalement inconnus qu'on a envie de défendre. On est dans la même volonté sur le week-end avec elle, donc beaucoup de découvertes, mais en même temps on se veut aussi un festival populaire. On n'a pas peur de mélanges parfois qui peuvent assez être surprenants, puisqu'on aura la chance aussi de recevoir une artiste comme Sheila, qui a un parcours assez unique à venir nous raconter, et dont on sait aussi beaucoup de bien dans la manière dont elle envisage et elle a commencé cette tournée, où elle est vraiment très très généreuse. On la voit beaucoup en compagnie de son équipe, techniciens, musiciens. Voilà, c'est une artiste qui n'est pas du tout décalée, qui est complètement bien dans ses pompes et qui va nous offrir quelque chose de fort. On a Olivia Ruiz qui revient 7 ans après un dernier album, avec un album aussi très fort, très chanson, mais aussi très électro. et puis Clara Issé, qui est aujourd'hui la perle montante de la chanson, et plein d'autres propositions, parfois même de l'humour avec Catherine Dubernet. Enfin voilà, on va vivre des moments qui vont être dans une très grande diversité.
Un week-end avec elle du 4 au 7 avril 2024. Et puis après, il sera suivi par le festival Maréotte qui sera, lui, du 17 au 20 mai.
Oui, tout à fait, du 17 au 20 mai. On reviendra pour la deuxième édition de Maréotte dans ce monde de Fada, là-bas, où on est attendu et où on a été reçu dignement dès la première édition. Sur un festival dont l'originalité est vraiment l'itinérance, on sera cette année sur 13 communes, sur les 20 de la communauté de communes. Un festival qui, du coup, avec son baluchon, passe d'un village à l'autre, où on recevra quand même des artistes repérés comme Titi Robin, Yves Jamais, Kali, le Béaba de la chanson. Mais aussi, on pourra se le faire un peu sportif avec des randonnées tous les matins et des belles propositions en théâtre de rue.
Merci beaucoup, Alain Navarro. On souhaite une très belle année à l'association RPG Trémolo.
Merci beaucoup, c'est gentil, on vous attend.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes présidente de l'association franco-kurde Occitanie et à côté Béatrice
Dilly.
Béatrice Dilly, vous êtes auteur et puis bon, peut-être autre.
Je suis journaliste à la Dépêche du Midi et donc autrice du livre Un génocide oublié, la voix brisée du peuple kurde.
Merci à tous les deux de m'accueillir quelques minutes à l'occasion de la conférence de presse pour le festival Un week-end avec elle, qui se tiendra au mois d'avril et où on retrouvera une mise en lumière de la culture kurde et de son histoire à travers un repas kurde, la présence, la participation de l'association franco-kurde Occitanie. Et puis également, c'est une présentation également de l'ouvrage que vous avez proposé. Alors, il n'y a pas le détail là, mais ce sera quelle date?
Alors pour le concert de groupe kurde et le repas kurde, ça sera le vendredi 5 avril et la conférence débat sur le génocide kurde aura lieu le samedi 6 avril au matin.
Vous serez présente sur la conférence débat ?
Je devrais être présente sur la conférence débat, effectivement, pour parler de mon enquête sur le génocide kurde en Irak et de la place des femmes dans ce génocide, des femmes en tant que victimes, mais aussi des femmes combattantes, puisque les femmes kurdes ont fait la preuve de toute génération de leur engagement pour se défendre et pour défendre leur culture et leur peuple.
On va en reparler. L'association franco-kurde Occitanie, elle existe depuis longtemps et elle met en avant aussi les liens qui existent spécifiquement dans le Tarn entre les Français et les Kurdes.
Oui, l'association franco-kurde, d'origine c'était l'association franco-kurde Albi. Et je l'ai créé en 1997 avec évidemment quelques amis français et kurdes autour de moi. Et nous avons fait tout pour faire l'intégrer la communauté kurde dans la société albigeoise, le début, et en même temps faire connaître les albigeois, l'identité kurde par des activités culturelles. Et des fêtes, montrer le côté artistique, et les repas kurdes, toutes les composites, les valeurs peuple kurde, avec dans des fêtes, dans des activités vraiment joyeuses, conviviales, pas du tout par des manifestations, pas du tout par tout ce qui est joyeux. Enfin, chaque année, on faisait les nouvelles en kurde. le 21 mars, et une ou deux fêtes parallèles. On participé avec RPG Tremolo. On a fait déjà week-end avec elle, on a fait déjà pause guitare plusieurs fois. Donc, et on a fait avec deux ou trois associations, Solidarité de Gaillac, avec. Donc, très actif, cette association, mais toujours des choses, comment je peux vous dire, pratiques, locales, humaines, mais vraiment une mélange de la... D'ailleurs, on a réussi, une mélange de la communauté kurde 100% avec la société française, une réussite des jeunes générations kurdes extraordinaires, qu'aujourd'hui, on a des... On ne trouve même pas la différence entre un jeune kurde ou un jeune albigeois. On a des avocats, on a des masters par dizaines, on a des ingénieurs, on a vraiment une communauté qui s'est intégrée, je peux me permettre de dire 100%, et qu'elle a réussi. Et qu'elle a réussi, qu'aujourd'hui, franchement, je dis sur votre antenne, je suis fier de la jeunesse kurde et leur parcours et leur réussite.
Merci pour ce beau témoignage et puis pour le travail de l'association franco-kurde Occitanie. Merci beaucoup. Peut-être un point, Béatrice, pour des jeunes qui ne seraient pas informés de la situation kurde actuelle en écho avec son histoire. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques mots là-dessus ?
Oui, c'est le Tarn qui a fait le lien entre l'association franco-kurde d'Albi au départ, devenue association franco-kurde de Midi-Pyrénées puis d'Occitanie, et la Dépêche du Midi quand Zuber a appelé pour la première fois la Dépêche du Midi en 99 pour faire parler de son association. Ça a été un coup de cœur, je dirais, parce que c'est un peuple extraordinaire, tourné vers la laïcité, très impliqué et avec beaucoup de joie de vivre et en même temps une histoire dramatique. Et c'est lors du Nouvel An kurde de 2013, alors que j'avais l'opportunité d'avoir 6 mois de congé pour aller faire des vacances humanitaires au Chiapas, au Mexique. C'était le projet au départ. Et Zuber m'a un peu détourné de cet objectif en me disant, si tu veux faire de l'humanitaire, viens au Kurdistan, on a besoin de toi. Il faut que les Français connaissent vraiment l'histoire kurde. Ce génocide, on se rappelle des bombardements chimiques, notamment le bombardement chimique d'Alabja qui a fait 5000 morts et 10 000 blessés en quelques heures. Mais en fait, les Français connaissent très mal... le peuple kurde. Les albigeois le connaissent un peu plus, les tarnés le connaissent un peu plus, mais c'était intéressant d'avoir une démarche de reconnaissance de ce génocide qu'il fallait aussi prouver. Ça veut dire pendant 10 ans de nombreux allers-retours avec le Kurdistan irakien, plus d'une centaine de rescapés du génocide interrogés, donc des histoires très douloureuses, des histoires de vie sauvée aussi, parce que c'était important de montrer qu'il y avait un espoir au Kurdistan irakien pour les Kurdes. Et un livre qui finalement fait la démonstration que les Kurdes ont bel et bien été victimes d'un génocide au sens du droit pénal international. Et je pense que c'est important de relayer cette histoire maintenant que ce livre est écrit et publié. Il vient d'être publié chez SPM aux éditions L'Harmattan. C'est important d'en faire le récit aux Français parce que nous sommes dans le pays des droits de l'homme. Et la France a sauvé les Kurdes du génocide à travers Daniel Mitterrand en 1991 en imposant auprès de l'ONU une no-fly zone au-dessus du Kurdistan irakien, ce qui a permis l'arrêt des bombardements sur les Kurdes, et à cette époque-là en tout cas. Et que la France reconnaisse 35 ans après le génocide kurde, 35 ans après la solution finale et l'opération Anfal, c'est important. La France a mis 85 ans à reconnaître le génocide des Arméniens. C'est une démarche juridique, hein. On est sur une qualification pénale, au sens du droit pénal international. Ce livre est un outil qui doit maintenant relancer le débat sur la reconnaissance officielle du génocide kurde par la France. Ça ne coûterait rien à l'État. C'est une reconnaissance symbolique, mais ô combien importante, parce que quand la France s'engage sur la question kurde, c'est l'humanité qui gagne. Et pour le pays des droits de l'homme, je pense que c'est une démarche qui va de soi. Ça prend du temps, donc j'ai fourni l'outil à travers un livre qui est écrit un peu comme un roman. C'est une écriture très cinématographique pour plonger les lecteurs au cœur des événements entre 1968 et 2018, puisque je raconte finalement 50 ans d'histoire. Pour le ressentir aussi dans sa chair, parce que je crois que c'est important de ressentir dans ses tripes cette émotion qui fait que la reconnaissance officielle du génocide est normale, quoi. Mais ça, c'est maintenant, j'ai fait ma part du travail. Et dans ce pays de rugby, je fais la passe aux députés et aux sénateurs français, parce que c'est à eux maintenant de reconnaître unanimement, quel que soit leur parti politique, parce que il y a pas de discussion possible finalement. Et en même temps, oui, il y avait besoin d'arguments, je les fournis. À eux maintenant de faire leur part du travail et de montrer que la France est à la hauteur de sa réputation de pays des droits de l'homme.
Merci. Peut-être pour clôturer, on peut dire que pour continuer à informer, à créer du lien entre les gens, puisque c'est ça qui est important et qui casse aussi certaines images et qui permet de faire société, il faut autant des événements joyeux, festifs, conviviaux, des repas, des concerts, que utiliser les mots qu'il faut, tels que le mot de génocide.
Oui. Oui, je pense, parce que déjà le peuple kurde d'origine, c'est un peuple de joie et de plaisir. Quand vous rentrez dans la société kurde, il y a même des activités agriculture, parce que la majorité c'est des agriculteurs. Chaque activité quand il exerce, il y a des chansons. Ils font tout en chantant, en dansant. C'est un pays peuple d'origine de plaisir et de joie et de fête. Bon, pour des intérêts politiques et géopolitiques et économiques, on a eu l'affaire avec des barbares, avec des chauvinistes qui voulaient exterminer ce peuple et qu'on a connu, je pense, 20e siècle, 21e siècle, les tragédies, les génocides qu'ils ont commis contre le peuple kurde sur la durée. On ne trouve pas sur d'autres peuples dans le monde. Donc, je pense, pour un pays comme la France, qui est toujours porteur de flambeau, qui est toujours porteur de des idées libérales, assez particulier la France quand on regarde son histoire, ça serait pas mal de reconnaître ces génocides. Comme elle dit, ma chère Béatrice, ça coûte rien sur l'État français, sur le peuple français, mais ça va alléger énormément la douleur, le malheur du peuple kurde, parce que c'est un droit. Et la France, je pense, c'est le premier concerné d'être en première ligne et de reconnaître et même faire reconnaître par d'autres pays dans le monde libre et démocratique.
Venez à la rencontre des Kurdes, de leur culture et de leur histoire à l'occasion du festival Un week-end avec elles. Ce sera du 4 au 7 avril avec une journée kurde, avec concerts et conférences. Merci à tous les deux, merci.
Merci beaucoup pour votre accueil et bonne journée, bonne année à tous les auditeurs de votre radio.
On rappelle le titre de cet ouvrage ?
Un génocide oublié, la voix brisée du peuple kurde.
Merci et merci à vous.
Mais on en a parlé beaucoup des combattantes kurdes contre Daesh et on aimerait bien qu'ils viennent voir comment ces combattantes kurdes, c'est des combattantes tout court dans la vie, elles sont des mères lyonnes, elles sont combattantes lyonnes et elles sont chanteuses et danseuses aussi, pareil. Donc vous allez voir la beauté de ce peuple et comment il est vive et réactif et il partage la joie et la vie.
Merci à tous les deux.
Merci.
Et si c'était un songe et si c'était un rêve, je m'en irais chanter sur les chemins de pierre, comme un loup solitaire se traînant sur la terre, pour trouver la lumière perdue dans l'éphémère, le plus fou des mensonges qui m'embarque et me ronge. Quand finira la course, le temps est à nos trousses, mais je prendrai la route, tu sais quoi qu'il m'en coûte. La plus belle de toutes, je n'aurai plus de doute. Allez, viens, n'aie plus peur et partons. Il est l'heure de rejoindre la vie, celle qu'on s'était promis et qui sait vers les cieux ou peut-être l'enfer. Mais aujourd'hui tu sais, j'irai vers la lumière et j'ornerai les jours, symphonie de velours. mais du sang s'il vous plaît, j'en ai trop consumé.
Marion Gandiglio, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie du Café Flo à Florentin. Quel est votre statut exactement au Café Flo ?
Alors, je suis la coprésidente. Toute la direction du café est assurée par des co-présidents, secrétaires ou trésoriers.
Depuis quand ça existe, le Café Flo ?
C'est la cinquième année d'existence après un chantier participatif pour le faire exister. Donc, une association gère le lieu qui appartient à la mairie, à la municipalité, qui nous le cède. L'association fait fonctionner le café au quotidien.
Donc, on peut y aller boire un café ou une bière, peut-être se restaurer et puis avoir des propositions culturelles ?
Tout à fait. Alors, on ne peut pas y aller tout le temps parce qu'il est tenu exclusivement par des bénévoles. Du coup, il y a des horaires d'ouverture. Pour boire un café ou une bière, comme vous dites, ou du vin local, on ouvre le vendredi soir, on ouvre aussi les dimanches matins. Et ensuite, le local est à disposition en semaine pour des ateliers divers et variés. Atelier couture, atelier multimédia, atelier café en occitan et un atelier belote aussi de jeux divers, enfin pas que belote, mais entre autres belote qui vient de se créer. Ça c'est pour les ouvertures en semaine, le reste du temps, toujours tenu, animé par des bénévoles.
D'accord, ben bravo à l'équipe.
Pas de restauration, en revanche. On réfléchit un peu régulièrement des auberges espagnoles et puis des événements, concerts ou théâtres de rue. Une fois tous les deux mois, en gros, on a droit à 6 spectacles par an. Donc voilà, on fait 6 événements par an, plus un week-end avec elle.
Ben justement, merci pour la transition. Un week-end avec elle, c'est la première fois que vous avez des liens avec ce festival ou pas ?
Non, la troisième année. C'est la troisième année, donc c'est en journée pour nous. On commence à 11h30 le matin. On fait une pause huître et repas autres préparés par les bénévoles. Et puis on enchaîne avec un deuxième concert à 13h30 l'après-midi. Et c'est notre troisième année co-organisation.
D'accord. C'est vous qui proposez les artistes que vous accueillez dans le cadre du festival ? Comment ça se passe ?
Non, là, c'est RPG Trémolo qui nous propose des artistes. L'année dernière, ils nous en avaient proposé plusieurs et on avait choisi en commission de programmation les artistes qu'on souhaitait entendre au café. Cette année, on a eu directement deux artistes qui nous ont été proposés directement par RPG Trémolo. Et qu'on valide.
Très bien, des artistes qui vont correspondre aussi au lieu, à l'ambiance du Café Flo. Très bien, ce sera la première semaine d'avril, le festival est du 4 au 7 avril. Très bien, mais merci beaucoup Marion Gandiglio. Merci à vous et puis on vous souhaite une belle année 2024 au Café Flo.
Merci beaucoup, merci à vous.
Faut se perdre dans tes bras, embrasse tes épaules. La nuit venue, le jour vaincu. Faut se perdre dans ta bouche, saliver avec toi à chaque faubourg. Un poème à chaque doigt, voilà, surpris par la vague d'amour, emportant la ville vers d'autres îles, vers d'autres rives. Emportant la ville vers d'autres îles, vers d'autres rives.
Thomas Couston, bonjour.
Bonjour.
Merci de m'accorder quelques instants à l'occasion de la conférence de presse d'un week-end avec elle qui va aller sur différentes communes et notamment à Castelnau-de-Lévis où on va retrouver la maison musicienne, l'occasion de découvrir ce lieu. Depuis quand existe-t-il et puis qu'est-ce que cet endroit exactement ?
Alors la maison musicienne a ouvert ses portes en 2022. Dans mon esprit, dans mes rêves, elle existe depuis longtemps parce que la maison est grande, c'est la maison où je suis né. Pour la petite histoire, elle est faite de telle sorte qu'il y a vraiment un espace très grand au rez-de-chaussée qui donne sur un jardin. Et où moi, quand j'étais enfant, jeune ado, je rêvais d'y monter un studio d'enregistrement. Le temps a passé, moi j'ai voyagé. Et à mon retour en 2020, j'ai décidé de dédier ce lieu à recevoir des musiciens amateurs ou un petit peu plus professionnels. Certains intermittents qui venaient pendant la période Covid, qui ne pouvaient pas jouer. Et moi, étant moi-même pianiste, mais à titre personnel, ils m'ont demandé de les accompagner. Et où là, j'ai appris à jouer, j'ai appris à écouter, j'ai appris à regarder. Et j'ai trouvé ça, l'expérience de jouer à plusieurs était passionnante. Et de là, j'ai décidé d'ouvrir donc un endroit avec quelques personnes du village sous forme associatif. Un endroit où les gens pourraient se réunir et jouer, leur mettre à disposition une salle qui convient bien au niveau acoustique, au niveau espace, au niveau convivialité. Et donc voilà, il y a des groupes qui viennent répéter régulièrement, qui en font leur lieu de résidence. Et parallèlement, nous, l'association, on organise des concerts. On reçoit des formations, que ce soit du jazz, que ce soit du rock, que ce soit... Enfin, on a toujours des choix un petit peu, voilà, d'essayer d'être un petit peu différent. On a une capacité entre 50 et 80 personnes selon la configuration, le lieu. Enfin, pas le lieu, les artistes qui viennent jouer. Voilà, la salle en 2023 s'est un petit peu agrandie avec un espace buvette, réception. Et on est très content de recevoir week-end avec elle. Voilà, et on remercie Arpège de Trono de nous avoir fait confiance. On va tâcher d'être à la hauteur.
Vous allez accueillir quoi dans le cadre du festival Un week-end avec elle ?
Une artiste qui s'appelle Lizzie. C'est solo guitare-voix, donc moi je trouve ça très très bien. Pour cette occasion, donc le concert sera à 15h, donc forcément on pense un petit peu les à côté de recevoir notre public avec un petit pot, avec une petite collation. Je crois savoir que les réservations vont pouvoir se faire en ligne via le site Un week-end avec elle, mais on dispose aussi d'une billetterie sur place et toute l'organisation est faite de telle sorte que on reçoit au maximum quand c'est dans son mode hivernal, on va dire celui comme à l'intérieur, on reçoit jusqu'à 80-85 personnes. Donc mine de rien, ça demande quand même une petite organisation. Et ça a été mis en place par une équipe qui est géniale et ça se passe toujours très bien.
Donc le week-end avec elle, ce sera début avril, on aura le temps d'en reparler, de ce rendez-vous. Et sinon, à la Maison Musicienne, les rendez-vous ouverts au public sont réguliers ou...
sont réguliers. Alors, comme je vous disais, on met à disposition une salle où les artistes des groupes qui veulent répéter, donc nous réservent un petit peu sur un calendrier qu'on établit ensemble. Ensuite, on a des ateliers chants qui s'y tiennent. On a une coach qui vient, qui regroupe une quinzaine de participants qui viennent toutes les semaines dans notre salle pour répéter. On a eu fait du théâtre également. Une troupe est venue répéter, a fait la première qu'on appelle la costumière, donc la première répétition avec des costumes. On a fait la représentation officielle en novembre. Le prochain concert, ça sera probablement au mois de mars. Je ne sais pas encore ce qui va se passer. Et là, on travaille pour le mois de juin de faire quelque chose sur 2 jours, comme un petit festival où il y aura donc dans le jardin, il y aura des petits groupes de l'atelier chant. Le groupe viendra faire un petit peu son audition annuelle. On a déjà 3-4 concerts qui sont prévus. Des instruments, des nouveaux instruments. On a un artiste qui viendra peut-être faire une session de flûte japonaise. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà. Et des choses plus conventionnelles. Mais ça, c'est en train de se peaufiner, de se dessiner.
Très bien, merci pour ces détails. Et donc, s'il y a des artistes qui seraient à la recherche d'un lieu, ils peuvent vous contacter ?
Ils peuvent nous contacter, maisonmusicienne.net. Il n'y a pas là, c'est maisonmusicienne.net. Sur Instagram, c'est pareil, c'est maisonmusicienne. Sur Facebook, on essaye d'être aussi informatif que possible, autant que le temps nous laisse. Mais oui, et vous trouvez mon numéro de téléphone et on accueille tous les gens qui veulent discuter, parler, partager leur passion pour la musique. Il y a toujours quelqu'un pour écouter ce qu'ils ont à dire.
Thomas Couston, merci beaucoup. Et on rappelle donc la Maison Musicienne, c'est à Castelnau-de-Lévis. Merci à vous et puis on vous souhaite une belle année 2024 à la merci. Maison Musicienne.
Bien évidemment, bien sûr. Bonne année à tous et à bientôt. Merci.
Vous venez venez d'écouter Tôt ou Tarn, un magazine partagé à la confluence des ondes amies, celles de Radio Albitzès, Radio Air d'Otan, Air d'Otan-Gaillac et Radio Octopus.